Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1989, La logique de l'honneur est un essai de sociologie du travail et de management comparé dans lequel Philippe Diribarne étudie la manière dont les traditions nationales orientent la vie des entreprises. Son point de départ est que les procédures, les organigrammes et les outils de gestion ne produisent pas seuls les comportements collectifs. Ils prennent sens à travers des conceptions durables de la légitimité, de la hiérarchie, du devoir et de la coopération. À partir de comparaisons entre la France, les États-Unis et les Pays-Bas, le livre oppose notamment une logique française de l'honneur, une logique américaine davantage structurée par le contrat et une logique néerlandaise du consensus. L'objectif ne consiste pas à classer les pays selon une efficacité abstraite, mais à montrer pourquoi une pratique jugée rationnelle dans un contexte peut échouer ailleurs. Cet ouvrage demeure une référence pour comprendre les limites des modèles managériaux universels et les difficultés concrètes de la gestion internationale. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la culture nationale comme cadre concret de la vie professionnelle. La thèse centrale du livre est que les entreprises ne constituent pas des espaces culturellement neutres. Les règles formelles y sont interprétées à partir de repères collectifs plus anciens que les organisations elles-mêmes. Pour Diribarne, les manières de donner une ordre, de reconnaître une autorité, de discuter une décision ou de régler un conflit renvoie à des traditions nationales relatives au vivre ensemble. Cette perspective conteste les doctrines managériales qui présentent certaines méthodes, souvent issues du contexte américain, comme des techniques universellement valables. Une même procédure de contrôle, de fixation des objectifs ou de rémunération peut ainsi être reçue comme une garantie d'équité, une atteinte à la dignité ou une invitation à la négociation selon le milieu où elle est implantée. Le livre ne réduit pas les individus à une identité nationale immuable, il insiste plutôt sur des cadres de sens partagés qui rendent certaines pratiques immédiatement intelligibles et en rendent d'autres suspectes. La conséquence pratique est importante, un dirigeant ne peut pas évaluer une méthode seulement à partir de sa cohérence technique, il doit aussi examiner les représentations de la justice, de l'autonomie et du statut qu'elle mobilise localement. Les structures et les traditions se soutiennent mutuellement, les premières matérialisent les secondes. Tandis que les secondes donnent aux premières leur force réelle. Deuxièmement, en France, la hiérarchie doit préserver l'honneur et la qualité du rôle. La notion de logique de l'honneur désigne la contribution la plus connue de l'ouvrage. Diribarne relie le fonctionnement français à un héritage de société organisée en ordre, où chaque position comporte des droits, des devoirs et une dignité propre. Dans cette optique, une relation hiérarchique peut être acceptée si elle apparaît légitime et si elle reconnaît la valeur du rôle exercé. Elle devient en revanche difficilement supportable quand elle évoque une subordination personnelle dégradante. Le supérieur ne tire donc pas son autorité de son seul rang administratif, sa compétence, son expérience et sa capacité à arbitrer avec justice comptent fortement. Cette analyse aide à comprendre pourquoi les prescriptions trop détaillées, les contrôles perçus comme mesquins ou les demandes contraires à la conception du métier peuvent susciter de la résistance. Celle-ci ne relève pas nécessairement du refus de travailler. Elle peut exprimer une défense de la qualité professionnelle et de la dignité associée à une fonction. Cette logique valorise aussi une autonomie dans la manière de bien faire, y compris lorsque les règles sont contournées au nom du devoir, mais elle comporte des risques protection excessive des corps, rigidité des frontières professionnelles et difficulté à conduire certains changements. Le livre invite ainsi à ajuster le management français, sans idéaliser cet héritage ni prétendre le supprimer par décret. Troisièmement, contrat américain et consensus néerlandais, deux autres principes de coordination. La comparaison avec les États-Unis et les Pays-Bas empêche de transformer le cas français en norme implicite. Dans la lecture proposée par Diribarne, le contexte américain accorde une place centrale au contrat, à des règles explicites et à la recherche de relations jugées faires. L'autorité managériale est plus facilement admise lorsqu'elle respecte les engagements, les droits reconnus et une définition partageable de l'équité. Le rapport entre employeurs et salariés peut donc être formulé de façon plus contractuelle sans que cela implique une absence de valeur collective. Aux Pays-Bas, le livre met en avant une logique de consensus, les décisions gagnent en légitimité lorsqu'elles résultent de discussions patientes, d'un examen des faits et d'un accord entre les parties concernées. La tolérance et la recherche d'accommodement y jouent un rôle structurant. Ces trois configurations éclairent des divergences concrètes. Une décision rapide et verticale peut sembler naturelle dans une organisation, mais inacceptable dans une autre si elle prive les acteurs de la consultation attendue. De même, la négociation formelle ou le recours strict à une règle peuvent produire des effets opposés selon les attentes locales. Diribarne ne présente pas ces modèles comme des portraits exhaustifs des populations. Il les utilise comme des idéaux de fonctionnement pour analyser les ressorts de la coopération, les malentendus interculturels et les limites de la simple transplantation des pratiques de gestion. Quatrièmement, transposer les outils de gestion au lieu de les importer à l'identique. Et l'apport managérial du livre découle directement de son comparatisme. Une entreprise internationale ne peut pas supposer que la diffusion de procédures identiques assurera une coordination efficace. Les outils de gestion circulent, mais leur signification ne voyage pas automatiquement avec eux. Un dispositif conçu pour clarifier les responsabilités peut être interprété ailleurs comme une défiance. Une politique de performance peut paraître équitable dans un environnement, mais réductrice si elle ignore les exigences de métier ou les formes locales de reconnaissance. Diri Barnes défend donc une logique de transposition, conserver une finalité de gestion tout en adaptant les modalités aux références du pays concerné. Cette position ne justifie ni le relativisme absolu, ni le maintien de toutes les habitudes. Le livre admet que chaque tradition comporte des dérives possibles et que les organisations doivent les contenir. La recherche française de l'honneur peut nourrir le corporatisme. Le contractualisme peut favoriser une approche trop juridique des rapports humains et le consensus peut ralentir la décision. La responsabilité du management consiste à mobiliser les ressources propres à une culture tout en limitant ses excès. Cette approche est particulièrement utile pour les implantations étrangères, les fusions et les projets de transformation. Elle remplace la question simpliste de la meilleure méthode par une analyse plus exigeante. Comment rendre une méthode légitime, compréhensible et opérante dans une situation nationale donnée? En dernier lieu, une thèse influente à lire sans figer les cultures en essence. La logique de l'honneur a marqué les études de management une portée au Schmidt parce qu'il a donné une portée sociologique à des difficultés souvent décrites comme de simples problèmes de communication. Son originalité est de relier les comportements observables dans les organisations à une histoire longue des institutions et des représentations collectives. Cette ambition explique aussi les réserves suscitées par le livre. Les catégories nationales peuvent encourager des lectures trop homogènes de sociétés qui sont traversées par des différences de classe, de secteur, de génération, de profession et de région. Les évolutions liées à la mondialisation, aux mobilités internationales et à la numérisation obligent également à éviter tout usage mécanique des modèles proposés. Des critiques ont en outre relevé que les conditions de transmission des traditions nationales étaient peu développées et que la réussite comparative des entreprises étudiées n'était pas démontrée par des critères détaillés. Ces limites ne rendent pas le livre inutile. Elles définissent plutôt la manière de le lire. Ces logiques nationales doivent servir de grille de questionnement, non de diagnostic automatique appliqué à chaque salarié. Le lecteur peut s'en servir pour repérer ce qui est tenu pour juste, honorable ou acceptable dans une organisation, puis vérifier cette hypothèse par une enquête attentive. Cette prudence est conforme à la valeur durable de l'ouvrage. Rappelez que les outils de gestion ont des effets sociaux et symboliques et que leur efficacité dépend de leur inscription dans des rapports de légitimité concrets. En conclusion, la logique de l'honneur intéressera en premier lieu les dirigeants, responsables des ressources humaines, consultants et étudiants qui travaillent sur les organisations internationales ou sur les spécificités du management français. Il apporte aussi un cadre utile aux professionnels confrontés à des malentendus persistants entre sièges et filiales, entre métiers et fonctions de contrôle ou entre méthodes importées et pratiques locales. Son bénéfice principal est de déplacer le regard au lieu de réduire une résistance à une inertie individuelle ou à un défaut de communication. Le lecteur apprend à interroger les conceptions collectives de la dignité, de la justice et de la légitimité qui organisent le travail. Cette lecture ne fournit pas un manuel de solutions immédiates. Elle rend toutefois les diagnostics plus précis et aide à concevoir des changements qui respectent les conditions locales de leur acceptation par rapport aux ouvrages de management interculturel fondés sur des listes de traits nationaux. Le livre se distingue par son effort pour relier les pratiques présentes à des traditions historiques et à des structures de pouvoir. Par rapport aux manuels de gestion standardisés, il refuse de faire de la méthode la cause unique de la performance. Son ancienneté appelle une lecture critique, attentive aux transformations contemporaines et aux diversités internes de chaque pays. Mais sa question centrale reste actuelle. Une organisation peut-elle être efficace sans comprendre ce que ses règles signifient pour ceux qui doivent les appliquer? C'est cette exigence sociologique, plus que la reproduction de recettes, qui explique sa place durable dans la réflexion sur le management. Si vous souhaitez soutenir Philippe D039, Iri Barnes, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.